mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Quelle est l'importance du service militaire des jeunes après les études secondaires? On en parle aujourd'hui avec Maître Jimmy Perouzi, conseiller juridique du ministre de la Jeunesse et Éducation à la Nouvelle Citoyenneté. Maître Jimmy Perouzi, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour à ceux qui vous...
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, au Okapi Service. Fidèles auditeurs, vous voulez participer à cette émission, vous avez des questions et préoccupations, écrivez-nous à service@radiookapi.net. Postez également vos questions sur la page Facebook de l'émission au Okapi Service. Sylvain Baougueré à la mise en onde, Tati Mapoukou assure la réalisation. Au micro, c'est Jody Daniel Keshama, Marcel Ngombo est à la coordination, Tati Mapoukou à la réalisation sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Okapi, Okapi Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Okapi Service. Le ministre de la Jeunesse et Nouvelle Citoyenneté compte instituer une formation militaire obligatoire des jeunes diplômés d'État afin de les initier à la discipline, à l'éducation civique et au respect des biens de l'État. L'annonce a été faite dernièrement au Musée National à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse célébrée le 12 août de chaque année. La dite formation va durer 6 mois avant de se lancer dans les études supérieures. Quelle est l'importance du service militaire obligatoire pour les jeunes diplômés? Eh bien, on en parle dans cette émission. Vous voulez participer? Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Nous avons en ligne Maître Jimmy Perouzi, conseiller juridique du ministre de la Jeunesse et Éducation à la Nouvelle Citoyenneté. Maître Jimmy, encore une fois, bonjour.
Oui, bonjour Sylvain, bonjour aussi à ceux qui vous suivent. C'est un plaisir pour moi.
Bien. La première question, c'est Jody, au micro, la première question est de savoir qu'est-ce qui a motivé le ministre à initier un tel projet.
Alors, la motivation est née déjà lorsqu'il a pris ses fonctions. Excellence Billy Kambale fait l'état des lieux de la jeunesse et à l'occasion des tournées qu'il a faites au niveau de la ville de Kinshasa essentiellement, auprès de plusieurs associations de jeunes, il est ressorti un constat amer. Le constat, c'est qu'il y a une forte érosion des valeurs morales et civiques au cœur de la société. Il y a de moins en moins le respect aux biens publics, de moins en moins également le respect même de la discipline au sein de la société. Il y a une société qui est vraiment en décomposition sur le plan des valeurs morales. Au-delà de ça aussi, il est parti du constat qu'à l'Est, depuis plusieurs décennies maintenant, il y a des guerres répétitives qui n'ont pas permis à ce que le calme revienne, notamment les agressions par des forces extérieures. Et vous notez que cela est d'actualité aujourd'hui plus que jamais parce qu'on nous a même fait attendre qu'il y a plus de 6 armées qui seraient de notre territoire. Et donc, il y a au-delà de cela aussi un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est que nous avons une armée qui, en fait, ne représente même pas les 5% de la population. Et ça pose un problème parce que vous savez qu'en tant que RDC, nous sommes le quatrième pays le plus peuplé d'Afrique et le premier pays les plus peuplés, les pays francophones les plus peuplés. Et donc, nous avons des ambitions et l'armée ou la formation des citoyens fait partie de ces facteurs-là. Et donc, au regard de tout cela, il a plu à son excellence de tenir compte aussi des impératifs, des besoins des uns et des autres, des conseils, ainsi que même des points de vue des membres du gouvernement. Il lui a plu de demander à son cabinet de préparer déjà les projets de loi. Et je peux vous dire aujourd'hui que le texte est déjà fait prêt. D'ici là, il sera envoyé au Conseil des ministres.
Bien. Donc, c'est après toutes ces considérations que le ministre a jugé bon de préparer ce projet de loi. Alors, envoyer les enfants à l'école faire la formation militaire pendant 6 mois, qu'est-ce que cela va les apporter Qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce qu'ils vont gagner en cela?
Alors, la première chose qu'ils vont gagner, c'est la confiance en soi, mais aussi la conscience nationale. C'est très important dans des pays où, si nous nous attelons à la génération qui est la nôtre, nous qui sommes au-delà de 35 ans, la génération qui est la nôtre est devenue presque une génération qui ne peut plus changer. Du coup, il faut compter sur la nouvelle génération. Donc, les jeunes de 18 ans à 25 ans sont la meilleure pépinière sur laquelle on peut essayer de construire une nouvelle génération, de nouveaux citoyens, un nouveau type de citoyens. Voilà pourquoi il était important de miser en fait sur ces jeunes. Non seulement on leur apprend les valeurs civiques nouvelles, mais aussi on leur apprend l'émaniement de l'arme dans le but de contribuer à la défense nationale en cas d'une évasion extérieure ou d'une menace très grave à la sécurité du pays. Et donc, c'est vraiment crucial et ce sont ces jeunes, c'est cette nouvelle génération qui va devenir le pilier pour nous. Et l'excellence l'a dit lors de la journée internationale de la jeunesse, il a dit que nous devons commencer à nous poser la question de ce que nous laisserons comme image, visage aux enfants qui seront les nôtres dans les jours qui viennent. Parce que nous poserons la question de savoir ce que nous avons pu faire aujourd'hui pendant que le pays est en train de sombrer. Et ça, c'est l'un des piliers, c'est l'un des souvenirs très, très marquants que nous laisserons à notre jeunesse, parce qu'au moins elle sera mieux préparée et mieux outillée que nous, tant sur le plan des valeurs civiques nouvelles que nous allons lui apprendre, mais aussi sur le plan de l'efficacité quant à la défense de la patrie française.
Bien, nous avons deux auditeurs en ligne, Alfred de Calémy et Kassereka de Boutembo. Alfred, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à l'invité et bonjour à tous les auditeurs de la radio Kassim.
Quelle est votre préoccupation par rapport au service militaire des jeunes après les études secondaires?
Merci, une fois de plus, de la considération. À mon avis, je pense que cette idée sera sans soubassement. Pourquoi? Parce que d'abord, l'enrôlement des jeunes dans l'armée, c'est d'abord une faculté. Ça ne doit pas être un caractère contraignant. Une faculté pour les jeunes de s'enrôler dans l'armée et soit de ne pas s'enrôler. C'est-à-dire, c'est une idée qui peut être favorable ou défavorable aux jeunes et non pas contraindre aux jeunes de s'enrôler. Mais non, ce n'est pas vraiment une idée qui est favorable. Donc, c'est que je peux contribuer au projet de loi en cours et de restructurer un peu la forme de la loi et non pas dire l'obligation aux jeunes de 18 ans de s'enrôler dans l'armée, mais par contre d'avoir un caractère donc facultatif aux jeunes de s'enrôler dans l'armée. Parce qu'il y a des jeunes qui peuvent refuser de s'enrôler et des jeunes qui ne peuvent pas refuser. C'est une faculté qui revient aux jeunes lui-même de faire ce que bon lui semble. Merci, voilà un peu ma contribution face à ces sujets.
Merci Alfred de Calémy. Kassereka, vous êtes à Boutembo. Bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre préoccupation par rapport au service militaire obligatoire des jeunes après les études secondaires?
Ok, ma préoccupation, je salue d'abord tous les auditeurs de la radio Capi. Ma préoccupation est celle-ci. Moi, pour l'écritement de la jeunesse à l'armée, c'est une bonne chose, mais je voudrais que aussi ce dirigeant, ce cadre-là, aussi nous encourage, nous donne l'audace-là. Et que l'aide d'abord, lui par exemple, nos députés, nos sénateurs, eux, soient exemplaires. Ils donnent les pas et nous aussi, nous serons capables aussi, nous aurons l'audace de suivre cette voie-là. Mais si, et par exemple, l'État d'ici, au nord de vous, les massacres, les militaires, ici à Béni, sont massacrés, ça ne donne pas le goût vraiment à la jeunesse d'aller d'ici un degré dans l'armée. Mais si on améliore d'abord la condition, et je dirais aux jeunes là d'aller de se faire un degré dans l'armée. Mais avec la condition que nous vivons aujourd'hui, ça ne donne pas le courage. Je dirais aussi Par exemple, au Rwanda, nous avons un président que son propre fils est militaire, mais pourquoi pas chez nous? Ils nous disent qu'il faut que nous amenions les enfants dans l'armée, mais que leurs enfants restent à la maison. Et c'est là où nous pensons que donc l'armée est une chose qui n'est pas honnête parce que leurs enfants, ils gardent les enfants à la maison, mais ils disent que d'autres enfants s'intègrent dans l'armée. Mais une bonne initiative, mais soit les exemplaires, c'est mon avis.
Bien, merci Kasereka de Boutembo. Nous avons en ligne Fariel de Kananga. Bonjour.
Bonjour, monsieur B.
Quelle est votre question, Fariel?
Oui, monsieur Jeudi, premièrement, je dois d'abord faire les rappels de mon commentaire sur page Facebook. J'avais dit que je partage cet avis dans le sens où ça permettra à tout le monde par un esprit du patriotisme. Car tant que les Congolais n'ont pas la volonté de servir leur pays, rien de bon à espérer dans ce pays. C'est une bonne initiative et cela ne reste pas être mort sur la table. Voilà maintenant ma préoccupation. Est-ce que le gouvernement a des centres pour la formation sur l'ensemble du territoire national? Deuxième préoccupation. Quand les enfants seront enrôlés, il y aura ceux qui vont solliciter rester dans l'armée. Et le nombre de militaires pourra augmenter chaque année. Que fera l'État congolais avec un nombre exagéré de militaires? Voilà mes préoccupations.
Bien, merci Fariel de Kananga. Maître Jimmy, vous avez suivi les différentes préoccupations des auditeurs. À vous la parole.
Alors, je remercie au passage Alfred, Kasereka et Fariel qui ont vraiment tapé juste lorsque ils interviennent. Et je vais essayer de rencontrer en fait leurs préoccupations. Nous n'avons pas la prétention de chercher l'unanimisme au sujet du service national. Nous pensons que aujourd'hui notre pays est d'ailleurs en retard. Nous sommes en retard par rapport à plusieurs nations. Vous avez suivi quelqu'un rappeler qu'au Rwanda déjà le service est effectif et ce n'est pas seulement au Rwanda, mais dans bien des pays en Afrique, en Algérie, en Égypte, en Israël, en France ou ailleurs, le service est déjà là. La grande préoccupation, c'est que nous, en fait, on a tendance à vouloir attendre toujours et attendre. Finalement, on laisse la situation de notre jeunesse sans évoluer. Alors, s'agissant d'Alfred qui a parlé du soubassement, je lui rappelle simplement que nous avons un soubassement juridique par rapport au texte qui est en train d'être préparé. Et je vais les renvoyer à l'article 63 de notre Constitution qui dispose que tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Un service militaire obligatoire peut être instauré dans les conditions fixées par la loi. Et cette loi-là que nous sommes en train de mettre en place. Et donc, je voudrais l'apaiser en lui disant que nous ne faisons rien, nous n'avons rien aussi qui n'ait des bases juridiques. Et le caractère obligatoire est justifié par la loi. Et il faut savoir qu'il y a une distinction entre le service militaire obligatoire et l'engagement volontaire au sein des forces armées. L'engagement volontaire, ce sont les enrôlements qu'on observe chaque jour de façon quotidienne. Mais le service militaire est une spécificité parce qu'il s'agit d'un engagement obligatoire que l'on impose aux citoyens, d'une réquisition des citoyens, d'un État à contribuer à aider l'État et l'armée face aux menaces qui pèseraient sur la nation. Et c'est très important d'insister là-dessus parce que si nous maintenons les choses à l'état, rien ne pourra marcher dans l'avenir. Autre chose concernant...
Maître Jimmy, on va accueillir un autre auditeur et puis vous allez poursuivre. Nous avons en ligne Jaurès de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur.
Nous parlons du service militaire obligatoire des jeunes après les études, après les secondaires. Quelle est votre préoccupation à ce sujet?
Ma préoccupation est la suivante. D'ailleurs, concernant les services obligatoires des jeunes à l'armée, ce n'est pas obligatoire parce qu'ils devraient normalement laisser aux jeunes leur choix. Laisser aux jeunes leur choix de choisir soit l'armée. Parce que je vois ces derniers temps dans notre pays, nos gouvernants laissent la priorité aux vieux et non aux jeunes. Ils laissent aux jeunes le service d'aller faire l'armée au lieu de leur laisser de contribuer aussi dans toutes les institutions de notre pays. C'est ça ma préoccupation.
Bien, donc d'après vous, il faut pas seulement les envoyer dans l'armée, il y a d'autres, ils peuvent contribuer aussi dans d'autres secteurs de la vie nationale.
Oui.
Maître Jimmy,
oui.
D'accord, merci. Maître Jimmy Perouzi, Alfred Dekalemi, revenons à la question d'Alfred, il dit que ce service ne doit pas être obligatoire, ça doit être facultatif. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Non, nous pensons effectivement qu'il y a une base légale. Nous avons voté une constitution. Les Congolais ont choisi, à l'article 63 de cette constitution, d'adopter plutôt un service militaire obligatoire. Il ne s'agit pas d'un service militaire permanent. Il s'agit d'abord de 6 mois. On forme les jeunes, on les prépare et sur le plan de nouvelles valeurs de citoyenneté, notamment ils auront des notions sur la nouvelle mentalité, en fait, les changements de mentalité, la moralisation de la vie publique, des questions liées au patriotisme, à l'amour du patrie, de la patrie plutôt, mais au-delà de cela aussi, ils seront formés militairement pour que, en cas d'agression sur notre territoire,
qu'ils puissent défendre le pays.
Les puissances qui nous entourent, oui. Qu'ils soient en mesure de réagir promptement. Et donc, ça reste nécessaire. Et si on doit, pour cela, demander la volonté des jeunes, vous savez, les parents nous aiment tellement qu'ils oublieraient aussi que notre survie actuelle dépend de ceux qui sont morts pour ce pays. Et donc, il s'agit d'une fédération, d'un appel fait à la nation pour qu'elle offre ses fils à son service pour sa survie. Et au-delà de ça, j'ai entendu M. Castrel qui a dit, que je salue d'ailleurs, qui est de la ville de Butembo, qui est ma ville, il a dit qu'il faudra que les responsables politiques des premiers plans puissent donner l'exemple. Et je peux les rassurer.
Que leurs enfants aussi aillent faire des services militaires.
D'abord, ce texte va être voté par le Parlement, ce qui constituera un engagement du Parlement, ça passera par le gouvernement, ce qui constituera également un engagement de la part des ministres, du président de la République et de tout le monde. Et une fois le texte aura été voté, c'est que même si c'est le fils du président de la République, il a atteint l'âge d'engagement dans le service national, il sera astreint par la loi. Donc ça ne sera pas une loi, ce n'est pas une loi pour simplement des responsables.
Maître Jimmy. Alors, Maître Jimmy.
On va résoudre la question au niveau global. En
fait. Maître Jimmy, quelle sera la tranche d'âge? Est-ce que c'est des 18 ans à 35 ans ou des 15 ans, des 15 ans à 35 ans?
Le service minimum est ouvert pour les jeunes de 18 à 20, à 25 ans seulement.
En fait. Des 18 à 25 ans seulement?
Exact. Et bien entendu, avec l'obligation de le faire, si par exemple vous avez 18 ans, vous êtes dans la tranche d'âge pour ceux qui sont directement concernés. Si vous veniez à vous échapper pendant un temps pour vous dérober de cette obligation, cette obligation vous suivra naturellement. Comme ça se fait partout ailleurs. Donc celui qui aura échappé à son propre service, c'est un devoir national, il devra toujours y être convoqué après. Donc, pour nous considérons que ce sera même, on va encourager dans les premiers temps que ce soit préalable pour entrer à l'université, afin que les jeunes universitaires de demain soient quand même des jeunes qui ont notre sens de responsabilité. J'ai des exemples des anciens universitaires de Kinshasa dont certains avaient pu faire des services similaires. Et ils vous disent que lorsque l'un d'entre les autres sont revenus, quand ils étaient assis dans une même université, il y avait un changement radical dans la discipline et la façon de comprendre les institutions entre ceux qui avaient participé au service national et ceux qui n'y avaient pas participé. Aujourd'hui, dans le pays, vous pourrez remarquer que tout le monde est devenu président de la République, de sa propre République. Et quand les chefs parlent, il n'y a personne qui écoute. On lance des projets qui n'arrivent nulle part parce qu'en fait, il y a un problème où nous avons perdu un certain nombre de valeurs. Il faut absolument que nous ne puissions pas léguer ces antivaleurs aux générations qui viennent. C'est pour cela que c'est très important.
Bien, et Maître Jimmy, on va accueillir John de Kolwezi, de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
John, quelle est votre préoccupation par rapport au service militaire des jeunes obligatoires?
J'encourage effectivement cette initiative parce que pour le moment, nous vivons dans notre pays une crise de citoyenneté vraiment sans précédent. Parce que quand vous remarquez le phénomène Kuluna, vous remarquez le phénomène enfant de la rue et consorts, c'est par manque d'occupation pour les jeunes. Les jeunes finissent les études et finalement se retrouvent dans la rue sans rien faire. Par faute de moyens, peut-être pour les parents, pour continuer l'université, ces derniers se retrouvent dans la rue, ne sachant pas quoi faire. Mais si ces derniers pouvaient être obligatoirement récupérés dans l'armée, ça va aider aussi l'armée à accroître son effectif et en même temps sa capacité intellectuelle, parce que ces jeunes seront évidemment formés en tant qu'élèves, en tant que diplômés et consorts. Donc, cette mesure vient en tout cas pour renforcer aussi le ministère de l'éducation et de la jeunesse et l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Et je crois que c'est une loi salutaire en tout cas pour le cas échéant.
Merci.
Pour cette période. Mmh. En tout cas.
Merci John qui soutient ce projet de loi. Revenons à la question de Fariel de Kananga. Il dit, est-ce qu'il y a suffisamment des centres de formation où ces jeunes iront pour recevoir cette formation pendant 6 mois, Maître Jimmy Perouzi?
Effectivement, c'est dans la mise en œuvre de la loi que cela va être fait. Il y aura une période transitoire d'une année pour permettre... Et la loi va prévoir, le projet de loi prévoit un mécanisme contraignant qui engagera le gouvernement à devoir voter des budgets pour la mise en place des centres d'accueil. Ça ne pourra pas nécessairement devenir des centres dans chaque quartier ou dans chaque commune, mais ce sera des centres par regroupement que l'État prendra à charge et sans aucun doute, c'est un processus qui va être déclenché dès l'adoption du texte et nous espérons, nous ferons tout pour que ce texte soit adopté d'ici fin décembre.
Bien, on va accueillir l'ingénieur Paul de Kananga. Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, ingénieur Paul de Kananga?
Ah, merci beaucoup. Je dis bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi. Je pense que vous avez vu tout ce qui était fait comme commentaire. Ce n'était pas vu aussi certaines difficultés que nos parents ont à travers les propositions que notre confrère avait lancées sur les réseaux sociaux afin de lancer les commentaires. Le problème, c'est quoi? Vous allez comprendre que nos parents, et je l'ai déjà constaté parce que moi aussi, j'étais parmi les gens qui devaient passer la formation militaire. Mais hein, quand je suis parti, c'est allé, les papas m'ont dit non, voilà comment ces gens-là souffrent, ils n'acceptaient pas d'aller, il serait mieux de faire selon les universitaires, c'est comme ça que je l'ai mieux fait. Si cette loi-là est proposée, c'est bien, mais moi je ne suis pas content que ce n'est pas tout le monde qui sera content. C'est pas là, il serait mieux au moins, je demanderais au moins à celui qui aurait proposé cette loi de bien analyser, soit d'appeler son équipe, de juger bon, au moins de trouver au moins quelque chose comme des meilleurs. Qui pourra peut-être l'accéder soit de l'aider au moins, de ne plus penser toujours à cela. Parce qu'au fil à mesure, si le gouvernement a pensé à mettre cela, moi j'ai terminé mes études humanitaires aujourd'hui, et puis on m'a dit de passer 9 ans pour passer à l'université, mais je vais passer comme je suis en train de passer le temps. Si moi je passe ici étant enfant, alors quelle sera la réaction des parents? Les parents peuvent verront comme ils sont en train de faire passer le temps. C'est pas là que j'ai lancé au moins mes propos là, je ne sais pas d'après vous si vous l'avez validé ou pas.
Bien, merci ingénieur Paul de Kananga. Bien, je reviens à vous, Maître Jimmy Perouzi. Vous avez suivi la préoccupation de l'ingénieur Paul de Kananga. Il dit les parents, ils voulaient faire le service militaire, mais les parents l'ont découragé. D'après eux, il n'y a pas de meilleures conditions salariales. Alors, qu'est-ce que vous pouvez lui dire à ce sujet?
Oui, je comprends très bien l'inquiétude de notre ami, mais je voudrais lui rappeler qu'il ne s'agit pas d'une adhésion d'un engagement au sein des forces armées nationales. Il s'agit du service militaire obligatoire qui a un objectif bien déterminé, celui de préparer la nation, les jeunes, surtout la nouvelle génération et l'ensemble des citoyens à défendre dans l'éventualité d'une attaque contre son intégrité territoriale la nation africaine. C'est ça, en fait, le service national. Il ne s'agit pas encore d'un engagement au sein des forces armées. Bien sûr, après le service national, il y aura beaucoup plus de jeunes qui vont naturellement s'orienter dans la carrière, faire carrière militaire, mais ce n'est pas ça, en fait, l'objectif. Il s'agit d'une formation de 6 mois qui est limitée, en fait, dans les temps. Et je voudrais aussi les rassurer et rassurer en même temps, je crois que c'était John qui a dit que c'est Fariel qui a parlé du nombre des militaires.
Il dit, s'il y a, après la formation, il y a des jeunes qui expriment le besoin de rester, de faire carrière dans l'armée. On se retrouve avec beaucoup de candidats. Comment est-ce que vous allez gérer cela?
Oui, en fait, c'est tout cela qui va rentrer dans ce processus de réforme, parce que ça va engager aussi du côté de l'armée une autre réforme. C'est vrai, ce service militaire obligatoire va renforcer la conscience nationale, va pousser beaucoup de jeunes à entrer, à faire carrière au sein de l'armée nationale. Mais attention, ce n'est jamais une mauvaise chose, hein, parce que lorsque les pays voisins savent que dans tel pays, il y a un nombre important de citoyens qui sont engagés et qui savent manier les armes, qui peuvent contribuer à la défense de leur pays, ça crée une dissuasion. Et ça, c'est très important. Si on n'organise pas ces services-là, les autres pays qui nous entourent vont continuer à penser que la RDC continue à être cette pensoire-là qu'on a beaucoup dénoncé ces dernières années. Donc, c'est très important. Bien entendu, je suis d'accord avec lui qu'il faudra effectivement des réformes sérieuses au sein de l'armée pour qu'on ait davantage de militaires. Ce ne sera pas... Je vais vous donner une projection, peut-être pas alarmiste, mais pour interpeller aussi tout le monde. C'est que d'ici 2030, la RDC va dépasser les 100 millions d'habitants. On peut aller même jusqu'à ça et 10 millions, ça et 20 millions. D'ici 2030, selon les projections des Nations Unies, qui prévoient effectivement qu'en Afrique, la population va doubler. Alors, imaginez, on a jusque-là, notre armée ne dépasse même pas les chiffres de 200 000. 1000 hommes pour 100 millions d'habitants. C'est vraiment un défi très, très, très profond qu'il faudra, commencer à réfléchir. Il faudra absolument commencer à réfléchir pour pouvoir renverser la tendance. Et donc, voilà pourquoi j'ai continué à insister sur l'importance de ce service qui est crucial pour remoraliser. Remonter les morales, notamment des citoyens pendant cette période qui semble la plus trouble d'ailleurs de notre histoire.
Bien, quelle est l'importance du service militaire des jeunes après les études secondaires? On en parle avec Maître Jimmy Peruzzi, conseiller juridique du ministre de la Jeunesse et Éducation à la Nouvelle Citoyenneté. Des questions et préoccupations, écrivez-nous à service@radiocapi.net.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Nous avons en ligne Dunia depuis Ijoui. Bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question par rapport au service militaire obligatoire des jeunes?
Le service obligatoire, c'était déjà un service qui avait déjà mis place dans d'autres pays développés, et ce qui d'ailleurs a permis la sécurisation des frontières, parce qu'on a compris que l'armée, qu'on reste toujours vieillie. Donc, je me suis signalé là-bas que depuis ma naissance, je fais la troisième année primaire, j'ai combattu le général Bissengimana, j'ai combattu le général Jimmy Pakidon. On n'a pas au Congo à réunir l'armée. Donc, ici, c'est très proche avec les Rwandais. Quand nous nous rendons au Rwanda, ce sont les gens de notre taille, plus facilement qui sont des commandants, des affandes. Mais nous, au Congo, quand on parle d'un commandant, on va voir les plus vieux, les plus avancés en âge. Et donc, cette initiative serait très, très bonne, sauf que ça va toujours aller dans la politique congolaise, parce qu'au Congo, la politique est qu'il y a plateforme, assemblée, je ne sais pas quoi. Il est question de bien nous initier qu'à chaque fois qu'on a fini son diplôme d'État, on doit le faire. Je venais de visiter l'année passée la République du Rwanda, notre voisin. Quand il a fait le diplôme d'État, l'élève finit son diplôme, on va faire cet exercice commun. On va élire, comme par exemple nous sommes de l'Est, parce que nous sommes de l'Est du Congo, ils vont nous envoyer par exemple à Kinshasa pour une formation de 6 semaines. Les gens de Kinshasa.
De 6 mois.
Pour une formation de 6 semaines. 6 mois. Et donc, comment on veut que quelqu'un puisse voir la politique de son pays? Mais qu'il ait l'amour, il connaisse déjà comment défendre. Parce que d'un moment à un autre, on peut vous appeler quand il y a de telles turbulences devant les fronts.
Dounia, vous proposez qu'il y ait, par exemple, des centres un peu partout dans les 26 provinces, et quand on prend, par exemple, les jeunes de Didjoui, on les envoie dans un autre centre à l'ouest du pays, par exemple.
Oui, c'est ça mon engagement. Et que donc, si on les fait, parce que vous avez dit que j'ai signalé que moi-même, je serai candidat avec mon âge. Je suis enseignant, mais...
Vous avez quel âge, Douni, hein?
Je suis de 29 ans.
D'accord, vous avez 29 ans et vous voulez être aussi candidat. Merci d'avoir appelé depuis Aijui. Maître Jimmy.
Oui, je salue l'intervention de notre ami Dounia qui a vu à juste titre comment les autres pays ont pu engager leurs citoyens dans ce service national. Et il ne s'agit pas d'un service permanent, mais il s'agit d'une prédisposition dans laquelle on met les citoyens, on les forme, on les encadre, on les accompagne, on leur donne, y compris même l'apprentissage à certains métiers, surtout parce qu'effectivement, on convoque non seulement les jeunes qui terminent l'université, ils ont les humanités, mais attention, ce n'est pas seulement eux, même les autres jeunes qui n'ont pas eu la chance d'étudier dès lors qu'ils ont rempli. Et ils ont atteint 18 ans et aussi vont être intégrés dans l'armée. Et dans ce service-là, nous prévoyons naturellement la possibilité d'une formation accélérée sur un certain nombre de métiers. Comme ça, ces jeunes-là, qui peut-être n'auront pas la même chance que les autres d'aller à l'université ou d'entrer, de faire carrière dans l'armée, en sortant toujours de ces services, ils vont avoir... ils auront un certain nombre de compétences qui peuvent leur permettre de s'orienter utilement dans la société en attendant lorsque effectivement ils seraient convoqués par l'armée pour venir défendre la nation en cas de menaces extérieures. Donc je pense effectivement que notre ami Idui l'a bien vu et c'est très important d'insister sur ce qu'il a dit.
Bien, nous avons un autre auditeur en ligne, Kita, depuis la ville de Goma. Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au service militaire obligatoire pour les jeunes après les études secondaires?
Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais remercier le ministre à travers ce projet de loi consistant à intégrer les jeunes diplômés dans l'armée pendant 6 mois pour une formation militaire. Néanmoins, monsieur le journaliste, notre ministre de la jeunesse a oublié que nous avons d'autres vocations dans d'autres domaines. Par exemple, le domaine de la gestion publique. Nous pouvons encore faire mieux dans ce domaine. Il y a aussi d'autres domaines à part de la gestion publique. Donc, à bref, je voudrais dire que ce projet de loi à soi n'est pas mauvais, mais les ministres doivent songer aussi à initier les jeunes dans d'autres domaines. Cela va nous permettre aussi de développer nos différentes capacités dans différents domaines à part l'armée.
Bien, merci. Maître Jimmy, vous avez la parole.
Oui, je note avec notre ami Kita, que je salue également, qu'il a besoin que les jeunes ne soient pas tellement orientés dans l'armée. Je rappelle encore une fois qu'il ne s'agit pas encore d'un enrôlement au sein des forces armées de façon définitive. Il s'agit de la préparation de la jeunesse à contribuer à la défense de la nation en cas d'une menace sur l'intégrité de son territoire. Je note aussi que la gestion de la chose publique aujourd'hui, et c'est là où, en fait, on élit domicile les gens qui, en fait, ont perdu tout repère. Quand nous parlons de l'érosion des valeurs morales, de l'éthique et d'une société qui manque de civilité de plus en plus, c'est dans la fonction publique qu'on retrouve ces gens de personnes, des gens qui n'ont aucun égard vis-à-vis des biens publics, des gens qui sont corrompus, et ainsi de suite. Et les services militaires obligatoires leur offrira à notre génération, à la nouvelle génération, la possibilité, déjà pendant les 6 mois-là, d'apprendre également ces nouvelles valeurs sur la nouvelle mentalité, sur les biens publics, sur la moralisation de la vie, la moralisation de la vie publique. Et tout ça, ça va réarmer moralement les jeunes, parce que il ne s'agit pas de dire ici que ceux qui auront fait le service public ne peuvent plus entrer dans la fonction publique. Non, il s'agit simplement de préparer la nation à accueillir une nouvelle génération qui aura été mieux préparée que nous ne l'avons été aujourd'hui. Je vais noter aussi que aujourd'hui, vous savez que dans nos écoles, le salut au drapeau n'existe plus. Il a déjà été presque suspendu parce que il était confondu à l'époque lors de la conférence nationale souveraine, lorsque il était confondu en fait au culte des personnalités. Et du coup, on a suspendu les causeries morales qui étaient offertes à la jeunesse dans toutes les écoles. Et il n'y a plus rien aujourd'hui. Et notre jeunesse est abandonnée. Et tout ça, en fait, montre l'urgence de mettre en place des services pour récupérer ces jeunes qui n'ont plus accès à des valeurs morales, et ils vont avoir 6 mois pour apprendre tout ça, et alors ça va les préparer à entrer beaucoup plus en forme, beaucoup mieux nantis civiquement dans la vie pratique.
Bien. Maître Jimmy Perouzi, je rappelle que vous êtes conseiller juridique du ministre de la Jeunesse et Éducation à la Nouvelle Citoyenneté. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
C'est à moi de vous remercier, M. Sylvain. C'est un grand plaisir. Salut à vous.
Monsieur Jody.
Je termine en disant que nous sommes très fiers, l'excellence Billy Campbell est très fière de l'accompagnement et de l'appui que les jeunes apportent à son projet.
Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Quelle est l'importance du service militaire des jeunes après les études secondaires? Eh bien, le ministre de la Jeunesse et Nouvelle Citoyenneté compte instituer une formation militaire obligatoire des jeunes diplômés d'État afin de les initier à la discipline, à l'éducation civique et au respect des biens de l'État. L'annonce a été faite dernièrement au Musée National à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse célébrée le 12 août de chaque année. Et la dite formation va durer 6 mois avant de se lancer dans les études supérieures. Nous avons en ligne M. Jean-Claude Vouemba, député provincial. Bonjour et bienvenue dans cette émission Okapi Service.
Bonjour, Radio Okapi.
Voilà. Oui. Alors, nous parlons de l'importance du service militaire des jeunes après les études. Vous avez suivi le projet de loi que prépare le ministre de la Jeunesse. Quel est votre avis à ce sujet?
Mon avis est tout d'abord, on dirait que les gens croient vraiment créer la roue. Vous savez, je comprends aussi le ministre Billy Campbell est un jeune garçon. Il était encore enfant à cette époque. À une certaine époque dans ce pays, quand les gens terminaient leur cycle en 6e année humanité, on les envoyait pendant 6 mois, une année, aller s'instruire, aller transcrire leur intelligence par rapport aux écoles, par rapport à certains établissements sociaux et tout consort. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Elle a été supprimée tout simplement parce que ça devenait un grand boomerang par rapport au budget de l'État. Le ministre Billy Campbell demande qu'on puisse faire 6 mois militaires. Vous savez, juste, je crois, 45 ans après, ça m'a rappelé l'ancien directeur du bureau politique, le défunt de heureuse mémoire, Mandrandel, étant dit prospère. Je me souviens la première fois que je parlais avec lui en 73, c'était ma première question que je lui avais posée. Je crois à cette époque, j'avais 15 ou 16 ans, parce que l'armée m'intéressait.
Oui.
Mandrandel, étant dit, m'a répondu en une seule phrase. Il m'a dit, si nous parvenons à faire entrer nos enfants au service militaire, avec tout ce qui se passerait comme rébellion, nous risquerons de le regretter. Et puis, le ministre Billy Campbell doit savoir, même en France, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, en Belgique, le service civil n'existe plus, le service militaire. Maintenant, on envoie les gens à travers le pays, à travers le service civique, parce que maintenant, les armées sont maintenant professionnalisées. Comment un ministre ne peut pas le savoir? Vous savez, avec toutes les rébellions que nous avons connues dans ces pays, et ces gens-là veulent maintenant que nos enfants, au sortir de l'école secondaire, puissent apprendre les armes. Mais à l'heure actuelle, combien avons-nous des enfants soldats? Mais la plupart de tous ces turiféraires, hein, qui ont occasionné autant de morts ici depuis, je n'en sais rien, Moulélé, Laurent Désiré, Kabila, Joseph...
Honorable Jean-Claude Vouemba, Maître Férouz, oui. Il a expliqué, il dit qu'il y a aujourd'hui, le ministre Billy a constaté qu'il y a l'érosion des valeurs parmi les jeunes, il y a une crise de la citoyenneté, c'est l'occasion d'envoyer les enfants...
La citoyenneté n'a rien à voir avec le service militaire. Si vous parlez de la citoyenneté, je suis d'accord, tout à fait, quand les enfants, nos enfants, à partir de cinquième secondaire, qu'est-ce qui les empêche de faire inscrire dans les manuels et même le faire passer aux examens d'État, l'éducation civique? Mais il faut arrêter. Le Congo est fragile. Nous avons autant de rébellions, mes chers amis. Et puis, avec quel budget? Un budget de 5 milliards. Vous allez prendre 2 millions, 3 millions, 5 millions de nos enfants, vous allez les accompagner comment? Donc nous estimons, nous ne sommes pas encore prêts pour que nos enfants puissent faire le service militaire. Vous savez, moi je suis dans une province, le Congo central, et je vois déjà comment ça pullue nos enfants qui sont dans des sectes, nos enfants qui sont dans des regroupements politicaux, militaires, spirituels et tout. Si vous les apprenez demain à prendre les armes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je m'inscrirai en faux et je le dénoncerai et je ne demanderai pas au président de la République qu'il puisse faire une grosse erreur de vouloir instituer le service militaire à nos enfants qui terminent leur sixième année humanité.
Donc d'après vous, cela peut encore envenimer la situation, pousser les enfants à rejoindre des mouvements rebelles?
Ce n'est même pas d'après moi. Là, vous êtes en train d'ouvrir une boîte de Pandore. Là, maintenant, nos enfants apprendront le maniement des armes. Et maintenant, avec tous ces grands seigneurs de guerre que nous avons connus ici, hein, ils vont faire quoi? Ils vont commencer à aller le pêcher. C'est bien. Quelque chose qu'il faut dénoncer. Il ne faut pas les accepter parce que ça risquerait de faire un boomerang que personne ne le contrôlera. De toute façon, budgétairement, c'est impossible.
Honorable Jean-Claude Vouemba, on va accueillir des auditeurs et je reviens à vous. On va accueillir Massoudi de Kindu et Moulamba de Kananga. Massoudi, bonjour.
Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les intervenants.
Quelle est votre préoccupation par rapport au service militaire obligatoire pour les jeunes?
Oui, ma préoccupation est celle-ci. Je soutiens d'abord cette opinion parce que c'est une bonne chose qui va être améliorer le développement de notre pays. Mais ces choses-là ne doivent pas être obligatoires. Vous savez, monsieur le journaliste, amener les choses obligatoires pour les jeunes congolais, ou soit pour la population, ça va créer aussi une mauvaise température. Pour avancer de cela, il fallait que les choses-là soient claires, ne soient pas obligatoires dans la population, dans les jeunes. Maintenant, pour les jeunes aussi doivent aussi en avoir l'amour et travailler à travers son pays. Maintenant, cet amour ne doit pas aller dans les conflits. Oh, tel que les autorités ont fait ceci, lorsque j'ai terminé la formation, je vais aller tuer ça. Non. Je ne dois pas.
Merci. Ça. Oui, alors quelle est la question que vous adressez à l'honorable Jean-Claude Vouemba, Massoudi?
Oui, la question que j'adresse à monsieur l'honorable, de faire seulement accepter que le projet de loi que le projet de loi que vous essayer d'élaborer qu'ils vont mettre en application. Et la deuxième chose, il fallait que les autorités cherchent aussi les moyens pour entrer les entreprises dans le pays.
Bien. Merci, Massoudi.
Parce que beaucoup de jeunes
d'accord,
n'ont
merci.
Pas eu des emplois.
Oui, beaucoup de jeunes sont dans le chômage. Merci. Moulamba, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les
advocats. Quelle est votre préoccupation?
À mon avis, par rapport à cette loi soulevée par le ministre national de la jeunesse, j'aborde cette loi ici sous deux aspects. Aspect positif et aspect négatif. Un par rapport à l'aspect positif, lorsque les jeunes seront enrôlés dans l'armée, ça fait partie de notre sécurité, la sécurité d'abord.
Moulamba, il ne s'agit pas d'un enrôlement jusque-là, c'est tout simplement une formation militaire. Massoudi nous dit que beaucoup de jeunes sont au chômage, il faut plutôt penser à créer des entreprises pour les occuper.
Ah d'accord, merci beaucoup. Si seulement quand ces jeunes sont formés, c'est bien parce que nous serons nous-mêmes le défenseur de notre territoire, de nos recherches, et même de nos propres populations. Regardez un peu à l'est, parce que la population n'arrive pas à se prendre en charge. Quand les groupes armés interviennent et ont des armes, et ils ont tous les moyens de défense, mais vous voyez, la pauvre population qui n'a pas les moyens de se défendre, on massacre, on coupe les têtes, et les gens, les groupes armés s'envolent. C'est ce qui fait en sorte qu'on puisse tuer les gens beaucoup à l'est. Mais si seulement les jeunes sont formés, ils deviennent directement un moyen de défense pour notre territoire. Mais l'aspect négatif, c'est que je regarde aujourd'hui dans l'armée, le gouvernement, je ne sais pas, a déjà fait une fois le recensement de tous les militaires que nous avons ici au Congo. Et aussi, les militaires que nous avons, l'armée n'a pas assez de matériel pour se défendre. Et si on va encore enrôler ou quoi former ces jeunes ici, au fil du temps, quel est l'avenir de ces jeunes ici? Parce que quand moi je suis un jeune, j'ai fini la sixième, je suis formé dans la formation militaire. Et après la formation, je ne sais pas quel sera mon sort, parce que je retourne là-bas, je n'ai pas d'emploi. Directement, ma crainte est que cette formation serait parfois au fil du temps, ça va créer des groupes de bandits, des gangs, des coulounes, des rebelles, parce que nous avons été formés et juste si nous ne sommes pas encadrés, ça me pousse à extorquer le bien, parce que je me vois que je suis capable, je peux tuer, je peux faire, mais je n'ai pas d'emploi.
D'accord, et merci Moulamba. Merci Moulamba, on a compris votre préoccupation. Honorable Jean-Claude Vouimba.
La première, je répondais à mon frère
Massoudi de Kindu.
Massoudi de Kindu, que je salue d'ailleurs. La première des choses, c'est quoi? Il vient de dire qu'il ne faudrait pas que cette loi puisse être adoptée en forçant nos enfants d'aller faire l'école, le service militaire. Donc lui-même, il s'est rendu compte que quand il y a une loi, il n'y a pas d'exception. Si ce pays ne va pas, ne marche pas, quand nous avons combattu le Kabila père et fils, c'était par rapport à quoi? Les lois étaient destinées pour les autres et non pour tout le monde. Donc à partir de ce moment-là déjà, on est en porte-à-faux par rapport au service militaire. Pire, le service civique. Je suis d'accord, je vous ai dit tout à l'heure, dans les années 68, 69, 70, 73, 74, il y avait un service civique que les gens quittaient l'école secondaire pour aller donner les cours, pour aller aider par-ci, par-là. Et non le service militaire. Les gens veulent confondre entre le service civique et le service militaire. Et maintenant, je veux chuter par rapport au dernier intervenant.
Oui.
Qui dit que, bon, après le service militaire, parce qu'ils disent qu'il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi pourquoi? Parce que les rébellions sont partout. Il n'y a pas d'emploi pourquoi? L'instabilité pèse dans ce pays. Il n'y a pas d'emploi pourquoi? Ce pays, les autorités ne sont pas respectées, même vis-à-vis de nos voisins ici. Nous l'avons vécu pendant 18 ans, pendant 20 ans, à l'époque du maréchal Mobutu. Est-ce que n'importe qui pouvait entrer ici?
Honorable Jean-Claude Vouimba.
À partir de ce moment, nous disons simplement,
oui,
nous n'allons pas donner la gâchette à nos enfants pour qu'ils deviennent de Kuluna ou consorts. Parce que, en ce qui concerne le travail, l'emploi, c'est la sécurité. Maintenant, nous avons une loi de OADA. Nous n'avons qu'à souscrire à cela. Les investisseurs vont venir. À l'instant où je vous parle, je suis à Inga. Je suis avec la délégation allemande qui est venue pour Inga 3 et le grand Inga. C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine stabilité qui pointe à l'horizon. Mais évitons à nos enfants demain d'aller grossir les rébellions.
D'accord. Honorable Jean-Claude Vouimba, on va accueillir Chico de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur Odu. Bonjour, c'est à votre invité.
Quelle est votre préoccupation par rapport au service militaire obligatoire pour les jeunes?
D'abord, j'étais beaucoup intéressé par votre sujet, monsieur Yodine, Daniel Kachama. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé l'intervention de votre invité. Je pense que c'est un sujet tellement capital. Je voulais un peu savoir, enrôler les jeunes après les études secondaires, c'est quelque chose que nous félicitons et d'ailleurs nous apprécions. Mais la question, la grande question que moi je suis en train de poser, c'est de savoir avec quelle vision on veut enrôler ces jeunes. Et après cette formation, qu'est-ce que le gouvernement pense pour ces jeunes? Parce que si vous observez aujourd'hui bien, dans beaucoup de
Chico, après la formation, après 6 mois de formation, vous allez faire les études universitaires.
Les études universitaires, c'est supporté par les parents ou bien par les gouvernements aujourd'hui, parce que c'est pas tout le monde qui sera en mesure. Le problème aujourd'hui, si vous observez bien, c'est nous nous inquiétons, c'est quoi? Nous voulons qu'il y ait que les jeunes soient pas les gouvernements puissent s'occuper de la jeunesse. Parce que si vous observez bien, la jeunesse congolaise est totalement marginalisée. On peut organiser des formations telles que les ministres de la jeunesse l'a dit, c'est bien, c'est quelque chose que nous apprécions. Mais après cette formation-là, qu'est-ce que les gouvernements pensent pour les gouvernements? Parce que si vous observez
pour les
bien,
jeunes.
dans beaucoup de groupes d'armées, c'est les jeunes qui sont beaucoup utilisés. Mais chose grave, après tout ce qui est comme difficulté, ces jeunes-là sont abandonnés à l'air.
Voilà.
L'importance.
D'accord, merci Chico de Kinshasa. Honorable Jean-Claude Wemba.
Je suis tout à fait d'accord avec M. Chico, mais le problème qui se pose et qui se posera demain, M. Chico vient de le dire, et après le service militaire, les gens qui ne vont pas travailler, que feront-ils? C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème tout simplement parce que le pays va volo. Nous avons un budget de 5 milliards. Vous allez sortir combien pour envoyer 3 millions, 5 millions de nos enfants au service militaire? Le service civil, je suis d'accord. Même à une certaine époque, nos grands frères ou bien nos papas qui étaient au campus de Kinshasa, on les a envoyés dans l'armée. Ils ont resté une année sans ils sont ressortis pour continuer leurs études. S'ils veulent croire que mettre nos enfants 6 mois au service militaire, leur montrer le maniement des armes, le Congo va l'eau. Et soyez-en sûrs à certains, vous aurez des rébellions partout parce qu'il y a encore des petits pinochets qui pullulent dans ce pays. Et nous le savons tous très bien. C'est pour cela qu'il faut être contre cette approche qu'on veut nous faire emmener. Et est-ce que vous savez, au moins dans certaines parties du Congo, la rébellion est toujours là. Vous le savez, au moins.
Honorable Jean-Claude Wemba, le maître Jimmy, qui est conseiller du juridique du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation, a dit ceci. C'est une façon de dissuader également les pays agresseurs. On est entouré des voisins. Il y a certains qui agressent la RDC. Lorsqu'ils vont apprendre qu'en RDC, les jeunes sont formés aussi dans les domaines militaires, ça sera une forme de dissuasion.
Reprenons en arrière. Quand le maréchal Mobutu était là, qui s'aventurait à venir? L'armée, c'est une armée professionnelle. C'est nous qui partons vers le Tchad, vers le Rwanda, vers le Soudan et tout qu'on sort, c'est nous. Si cette fois-ci l'armée n'est pas là, l'armée a été décentralisée, on ne sait plus qui est qui. C'est pas parce que vous sortez d'une rébellion, on vous met capitaine, on vous met général. C'est ça qui a détruit notre armée. Nous avons encore des valeureux militaires qui sont encore dans notre pays et qui peuvent servir ce pays. Mais faites-le confiance. Quand vous faites le brassage sur brassage, à quoi vous vous attendez? C'est pour cela que je dis clairement, je suis contre et je serai contre que nos enfants puissent aller faire 6 mois de service militaire.
Bien. Honorable Jean-Claude Wemba, je rappelle que vous êtes député provincial du Congo central. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie. C'est moi.
Bien, mesdames et messieurs, c'est la fin de la première partie du magazine Okapi Service consacré au service militaire des jeunes après les études secondaires. Nous allons souffler un tout petit peu. On va suivre les informations et on se retrouve juste après pour la deuxième partie de cette émission Okapi Service New Look.
Radio Okapi, Okapi.
Okapi Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi.
Okapi.
Bienvenue dans cette deuxième partie du magazine de la vie au quotidien, Okapi Service, consacré au service, à l'importance du service militaire des jeunes après les études secondaires. Vous savez, le ministre de la Jeunesse et Nouvelle Citoyenneté compte instituer une formation militaire obligatoire des jeunes diplômés d'État afin de les initier à la discipline, à l'éducation civique et au respect des biens de l'État. L'annonce a été faite dernièrement au Musée National à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse célébrée les 12 août de chaque année. La dite formation va durer 6 mois avant de se lancer dans les études supérieures. Quelle est l'importance du service militaire, de cette formation militaire obligatoire pour les jeunes? On en parle à présent avec Monsieur Jean-Jacques Wondo. Il est expert et analyste des questions politiques et sécuritaires du Congo et de l'Afrique médiane. Il est diplômé de l'École royale militaire belge et breveté des hautes études de sécurité et de défense. Jean-Jacques Wondo, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, au Capi Service. Alors dites-nous, est-ce qu'il est important aujourd'hui que les jeunes Congolais, les jeunes diplômés d'État aillent faire la formation militaire?
Je pense qu'il faut d'abord replacer les choses dans le contexte de base. Hein. Commencer d'abord à expliquer c'est quoi un service militaire obligatoire avant de répondre à votre question. Pour les cas qui concernent la République démocratique du Congo. Il faut se dire que cette question est fait suite d'abord à l'initiative parlementaire du député Daniel Mbao, qui voulait une réponse adaptée à la crise d'intégrité territoriale dans un État devenu le théâtre des incursions militaires étrangères. Pour lui, il pense que c'est une façon de permettre aux Congolais de définir un projet de construction d'une identité congolaise, mais aussi de renforcer l'unité nationale. Et à ce projet vient se greffer aussi le nouveau projet du ministre de la Jeunesse qui veut imposer aux jeunes une formation militaire de 6 mois après l'école secondaire. Le service militaire, est-ce que c'est la panacée? Est-ce que c'est la solution à la problématique sécuritaire congolaise? Je pense que la conscription, ou ce qu'on appelle service militaire, elle est faite pour chaque jeune d'un État, sans distinction de statut social, qui a atteint un certain âge, fixé par la loi ou remplissant certaines conditions, fixées par les autorités, de servir son pays ou de servir ses forces armées pendant une période limitée par la loi. Le but initial était à l'époque de pouvoir mobiliser massivement des jeunes en vue de faire face aux conflits armés de grande ampleur. Donc la conscription ou le service militaire, dans sa conception initiale ou originelle, jouait un double rôle. D'abord, patriotique et égalitaire. Elle créait d'abord le lien entre ce qu'on appelle la relation armée-nation et l'autre, pour permettre aux jeunes d'être porteurs des intérêts du pays, donc les intérêts nationaux. Mais il y avait aussi un double rôle de brasser les différentes couches sociales pour pouvoir renforcer l'unité nationale. Donc, on essayait par la conscription de mobiliser des jeunes pour s'engager dans l'armée, parce que les armées de départ n'étaient pas ce qu'on appelle les armées de métier. Et souvent, on a tendance à opposer la notion de service militaire obligatoire ou de conscription à l'armée de métier, l'armée des professions. Pourquoi je dis ça? C'est très important.
Oui.
Parce que de nos jours, plusieurs pays ont abandonné ce type de constitution de l'armée pour favoriser une armée professionnelle dont le recrutement se fait sur base volontaire. Or, si...
Oui,
Allez-y,
on vous écoute, monsieur Jean-Jacques. Allez-y, on vous écoute.
Oui. C'est-à-dire que je disais qu'on oppose l'armée de conscription ou l'armée constituée sur base d'un recrutement, d'une imposition obligatoire à une armée de métiers ou professionnels, une armée professionnelle où l'engagement se fait sur base volontaire et non contraignante. Au départ, des critères de recrutement et de sélection stricts et rigoureux en termes d'aptitude au métier de soldat. C'est-à-dire que n'importe quel jeune n'est pas admissible, ne peut pas faire l'armée, parce que pour faire l'armée, il faut répondre à un certain nombre de critères, à la fois d'ordre physique, d'ordre moral, d'ordre éthique et d'ordre même intellectuel. Or ici, le projet vise à prendre tous les jeunes congolais ayant obtenu un diplôme pour pouvoir suivre une certaine formation.
Donc, d'après vous, cette formation ne devrait pas concerner tous les jeunes. Il faudrait qu'il y ait des critères, par exemple, pour sélectionner ceux qui peuvent faire l'armée ou pas.
Mais je pense qu'au-delà de répondre à cette question, il faut d'abord se poser la question de la valeur ajoutée de cette formation. Est-ce qu'elle apporterait quelle valeur ajoutée en termes de sécurité ou de sécurisation du pays, ou quelle valeur ajoutée en termes socio-professionnels ou d'édification, par exemple, de l'unité nationale. Ici, le projet me semble assez flou, dans la mesure où on va prendre les jeunes qui ont terminé pour les amener dans l'armée, mais pour quoi faire?
Alors, on a suivi tout à l'heure Maître Jimmy Peruzzi, le conseiller juridique du ministre de la Jeunesse. Il a bien dit, le ministre est parti d'un constat. Il y a aujourd'hui l'érosion des valeurs civiques parmi les jeunes. La citoyenneté n'existe presque plus. Ce sera l'occasion d'amener les jeunes, de leur donner une formation en éducation civique, de ranimer la conscience nationale et des voilà, quand il y a un besoin par exemple pour défendre le pays, et puis on peut faire appel à ces jeunes pour défendre le pays, développer en eux le sens patriotique. Voilà comment Maître Jimmy Peruzzi a expliqué le bien fondé de ce projet.
Je pense que si l'initiative de départ peut semblait intéressante. Moi, je pense que quand on analyse les choses de manière pragmatique et réaliste, aujourd'hui, que ce soit l'organisation et la structure des forces armées congolaises ne permettent pas de répondre à ces objectifs. Nous connaissons l'état de notre armée, nous savons tous que cette armée congolaise est confrontée à des problèmes d'antivaleurs, à des problèmes de viol et d'incivisme. Et je ne pense pas que c'est à ce niveau-là aujourd'hui, de manière pragmatique, qu'on pourrait trouver la solution. Et aussi, je me demande si cette initiative est cavalière ou doit se faire en concertation avec d'autres parties prenantes, pas seulement le ministère de la Jeunesse, mais qui est le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation nationale, et le civisme, le patriotisme, pour moi, c'est au niveau d'abord de la formation des bases des Congolais que nous devons nourrir, que nous devons inculquer à nos jeunes ces valeurs. Mais aujourd'hui, nous avons une armée qui a du mal déjà à payer ses militaires. On a une armée qui éprouve des difficultés à pouvoir caserner ses militaires. Réfléchissons un peu en termes de processus de mise en œuvre de ces projets. Est-ce qu'il y a un budget? Combien de jeunes pourraient-ils être mobilisés pendant X temps? Et quelles sont les conditions d'accueil, les conditions de mobilisation, les conditions d'appel, de suivi, de contrôle pour ceux qui les récalcitrants qui ne vont pas suivre? Moi, je pense qu'il faudrait qu'on mène d'abord une réflexion en amont pour voir la faisabilité de ce projet. Et mener aussi ce qu'on appelle, en termes techniques, une étude de benchmarking. C'est-à-dire une étude plutôt, benchmarking, une étude de comparaison comparative pour voir dans les pays où ces projets ont été implémentés ou appliqués, quels ont été les résultats et pourquoi aujourd'hui la plupart des pays abandonnent ces projets. Parce que ça risque d'alourdir même les conditions, et même sur le plan, disons, budgétaire. Le budget de l'armée congolaise est très faible, insignifiant. Et d'où allons-nous, ou d'où iront-ils faire la ponction budgétaire pour pouvoir mettre en place ces projets? Moi, je pense que on est plutôt dans une déclaration de bonnes intentions, mais dont la mise en application sera difficile.
Bien. Monsieur Jean-Jacques, on va accueillir des auditeurs, Albert de Kananga et Pierre de Goma. Albert, bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour.
Voilà, Albert, quelle est votre préoccupation?
Une préoccupation, hein? La première, c'est de savoir. Bon, nous avons suivi attentivement cette loi, enrôlement des jeunes dans les services militaires, bien sûr. Moi, je me pose la question de savoir cet enrôlement des jeunes dans les services militaires aura pour quelle finalité au juste? Et qu'est-ce qui est visé au juste dans cette loi? Et si tous les jeunes sont enrôlés dans les services militaires, quelles seront en tout cas les conséquences de les payer vraiment de couleur? Ça, c'est la seule préoccupation. La deuxième, souvent, nous parle de l'espoir, en fait, la jeunesse et l'espoir de demain. Aujourd'hui, on met l'espoir, on dirait que l'espoir de la jeunesse se trouve maintenant dans les services militaires ou comment. Donc, on va orienter l'espoir de la jeunesse dans les services militaires ou comment. Donc, on ne comprend pas du tout. Il y a beaucoup de services qu'on peut vraiment envisager pour que l'espoir de la jeunesse puisse revivre. Malheureusement, cette loi, pour moi, je trouve que, pas du tout normal d'envisager dans ce sens-là. Parce que bien. Si tous les jeunes sont déjà enrôlés dans ce service, on dirait que le pays, on peut se lever des grands matins comme ça, où tout le monde on peut vivre encore les mêmes choses avec les services militaires qui se trouvent déjà, les rebelles qui se trouvent à l'est partout dans le pays.
Voilà, Albert craint qu'il n'y ait beaucoup plus de rébellions à travers le pays à cause de cela. Merci d'avoir appelé Albert de Kananga. On va donner la parole à Pierre de Goma. Bonjour.
Bonjour, la fréquence de la paix. Bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Bienvenue, Pierre de Goma. Oui, vous êtes à Goma. Quelle est votre préoccupation par rapport au service militaire obligatoire pour les jeunes?
Ma contribution par rapport à cette thématique est celle-ci. C'est une bonne idée parce que la majorité de notre jeunesse n'a pas d'emploi. Et en plus, la jeunesse, c'est parmi les grands piliers de du développement d'un pays. Mais est-ce que notre gouvernement a mis la disposition pour le ressourcement de ces jeunes au sein de l'armée? Entre temps, j'aimerais savoir, est-ce que c'est une formation qui doit durer ces 9 mois et puis après ces 9 mois, la jeunesse doit rentrer chez eux à la maison, attendre pour défendre l'intérêt du pays.
Après 6 mois, ces jeunes vont aller faire les études universitaires.
Les études universitaires, ils seront supportés par notre gouvernement ou bien? En plus, notre jeunesse, la majorité de la jeunesse ne va pas bien accueillir ce message, vu les conditions de nos militaires qui traversent, parce que tu ne peux pas vouloir t'enregistrer contre un rôle dans l'armée pendant que tu suis les conditions de nos militaires qui traversent. Ce n'est pas du tout bien. C'était ça ma contribution.
Merci Pierre de Goma. Nous parlons de l'importance du service militaire des jeunes après les études secondaires. Comme invité, nous avons Monsieur Jean-Jacques Wondo, expert et analyste des questions politiques et sécuritaires du Congo et de l'Afrique médiane. Il est diplômé de l'École royale militaire belge et breveté des hautes études de sécurité et défense. Vous avez suivi les différentes préoccupations. Albert de Kananga se pose la question de savoir quelle est la finalité de ce projet. Et quelles seront les conséquences? Il dit la jeunesse est l'espoir de demain. Est-ce que c'est dans l'armée que cette jeunesse sera mise en valeur? Pierre de Goma nous parle du chômage. Beaucoup de jeunes sont aujourd'hui au chômage. Est-ce qu'on est arrivé d'abord à les recenser? Qui va supporter après la formation militaire? Ils vont aller à l'université. Qui va supporter leurs études? Quelles sont les conditions? Il se pose encore beaucoup de questions par rapport à ce projet. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces deux auditeurs?
Mais ce que je peux dire est que d'abord leurs interventions se recoupent, hein, parce que M. Albert de Kananga pose même la question sur les effets pervers de cette formation. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un pays où l'économie est pratiquement par terre, où le budget militaire ne suit pas, où la majorité des personnes qui sont au chômage sont plutôt fait partie plutôt de la tranche d'âge de cette jeunesse-là qui va être mise au service militaire. Prenez le cas d'un jeune qui termine ses études, qu'on envoie pour être formé militairement, qui apprend à manier les armes, et le lendemain, il se retrouve au chômage. C'est-à-dire que tu auras appris à utiliser l'arme. Et aujourd'hui, par exemple, si vous faites une analyse transversale de la situation sécuritaire du Congo, vous vous rendez compte qu'il y a une résurgence du grand banditisme, des violences dans les milieux urbains. Donc ces jeux, et sans compter aussi les effets de tous les groupes armés.
et ce jeune-là qui n'aura pas d'emploi ou qui n'aura peut-être pas accès à des études universitaires est vraiment un client potentiel pour soit des groupes armés ou pour peut-être s'adonner à des activités criminelles de grand banditisme. Mais le fait que ce garçon, ce jeune Congolais n'a pas d'autres moyens d'accès à l'emploi ou à l'insertion professionnelle. Et aussi comment développer ces projets alors que parallèlement le Congo est confronté à ce qu'on appelle la recrudescence des groupes armés et des programmes, ce qu'on appelle les programmes DDR, désarmement, démobilisation et insertion, où des dizaines de milliers d'autres personnes, d'autres surtout à majorité jeunes et parfois mineurs, ont été sont sortis de voies de lutte ou de combats armés, sont cantonnés dans des endroits où on ne sait même pas leur donner un logement décent ou une alimentation. Et comment peut-on mettre en place ces projets en parallèle alors que les personnes qui sont prioritaires, qui nécessitent plutôt un apport de ce gouvernement ou de la jeunesse, n'arrivent pas déjà à mettre en place ce projet? Et parlant aussi je réponds aux deux questions de manière croisée. Mm-hmm. J'ai parlé tout à l'heure d'une question de recensement. Comment on va recenser ces jeunes? Comment on va préparer toute la procédure, hein, de vraiment de mettre en œuvre? Et une fois que ces jeunes se démobilisent, quels sont les mécanismes qui seront pris? Est-ce qu'une réflexion, une analyse, une étude de faisabilité a été faite en amont pour pouvoir mener à bien ce projet? Et je voudrais aussi revenir ici à un aspect très important. On oublie que en 1997 ou 97, il y a eu un projet du service national. Moi, je pense que ce projet pourrait plutôt être une référence importante qui a été instituée par le défunt président Laurent Désiré Kabila, de mettre plutôt vraiment en œuvre de projets, de programmes de réinsertion sociale, d'éducation patriotique, et d'éducation à la citoyenneté des jeunes désœuvrés. Oh, ici, nous avons affaire à des jeunes qui ont quand même fait des études, qui arrivent à des études secondaires. Généralement, chez nous, quand un garçon arrive en sixième secondaire, a quand même un certain niveau acceptable de citoyenneté, de patriotisme, que beaucoup de jeunes qui n'ont pas eu l'occasion, par exemple, d'évoluer dans un circuit scolaire, soit classique ou soit professionnel traditionnel.
Jean-Jacques Ouondo, vous avez fait allusion au service national, mais ce service n'a fonctionné que dans son volet agricole. On a vu les jeunes aller être amenés à Kanyama-Kassissé pour faire les champs.
Oui, mais je dis que c'est une base. Hein. Le service national avait deux aspects d'ailleurs. Il y avait un aspect d'éducation, d'encadrement et de mobilisation des actions, mais il y avait cet aspect agricole. Il y a un autre aspect aussi qui avait un volet de formation militaire qui s'est transformé en formation de groupe d'autodéfense dans un contexte où le Congo était en guerre. Moi, je pense qu'on peut partir de cette base qui n'est pas mauvaise, l'améliorer au contexte actuel pour voir quelles sont les priorités, quels sont les jeunes qui peuvent être éligibles à ce projet, plutôt que prendre tous les jeunes dont certains peuvent, par exemple, aujourd'hui aller faire des études parce que le besoin du marché fait qu'on a besoin d'une formation assez rapide, mais on ne peut pas prendre de manière obligatoire, surtout dans les conditions économiques actuelles des jeunes, les mettre dans une formation, les former, et le lendemain, on ne sait pas ce qu'on en fait, on va en faire, sachant que ces jeunes savent utiliser des armes. Et aussi, comment on va les loger? J'ai vraiment du mal à comprendre le bien fondé, la valeur ajoutée effective de ce projet.
Bien, on va accueillir deux auditeurs, Lindondo depuis Bounia et Gabi de Lubumbashi. Lindondo, bonjour.
Et bonjour. Bonjour à Radio Patrice.
Bien, quelle est votre préoccupation, Lindondo?
Oui, moi, je me serais posé un peu la question de savoir. Je ne sais pas, moi, comme on dit que non, l'enrôlement des jeunes âgés de 18 ans révolte, je ne sais pas, moi. Et cela, on ne va pas aussi tenir compte de leur niveau d'études. Et aussi, quels sont les moyens nécessaires dont l'État préconise pour ces jeunes garçons, pour ces jeunes, Parce que nous constatons que non, nos armées, ou nos fortes armées, moi qui suis ici au niveau de Bounia, nous constatons que non. Au niveau de Djougou aussi, il y a même des militaires dont on les envoie là-bas sans même qu'il y ait des moyens nécessaires pour que non, ces militaires-là aussi puissent bel et bien
oui, aller au front, parce que lorsque la morale n'est pas bonne, même aller faire bien son travail, ça sera moins difficile que un soldat puisse aller faire un travail, parce que les soldats, lorsqu'ils partent, ils sont là pour mission de servir son pays. Mais bien, malheureusement, alors... que non, nous avons un État irresponsable qui ne permet pas vraiment qu'on puisse bien...
Lindondo.
On puisse bien faire bien s'y pomper.
Alors, quelle est la question? Nous ne parlons pas des militaires qui sont enrôlés dans l'armée. Nous parlons des jeunes qui, ce projet de loi qui propose une formation des jeunes des 6 mois. Après, ils vont poursuivre leurs études universitaires. Quelle est la question que vous adressez à l'invité?
Oui, bon, la question est de savoir, est-ce qu'il y a des provinces qui sont sélectionnées ou sont, comment est-ce que les jeunes là feront pour qu'ils puissent avoir accès à ces formations-là? Est-ce qu'il y a des provinces qui sont sélectionnées ou soit nous, il y a des endroits, nous qui sommes dans des provinces ici, où on peut aller s'inscrire pour suivre ces formations-là?
Bon, Lindondo, c'est encore un projet de loi qui a été déposé au Parlement. Merci d'avoir appelé. Gabi, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, jeudi. Bonjour à l'invité.
Quelle est votre préoccupation?
Moi, j'ai pas une préoccupation, mais j'ai plutôt une suggestion et même un témoignage personnel.
Oui.
Quand j'étais en troisième graduat, je crois que c'était en 2011, j'avais appris que les faux recrutés, l'école de formation d'officiers de camp a recruté. Alors, j'étais allé passer le test pour être recruté, être enrôlé dans l'armée parce que comme je l'ai dit, je soutiens cela parce que c'est un sentiment patriotique. Alors, pendant que je passais le test, je voyais, c'était des militaires qui nous faisaient passer ces tests physiques et puis les tests plutôt intellectuels, donc l'examen comme examen d'État. Alors, ce qui m'avait découragé, c'est de voir que les militaires même qui nous faisaient passer ces tests, c'était des lieutenants. Et on m'avait dit que c'était à ce grade-là qu'on devait quitter l'école de formation. Donc je vois ces lieutenants-là qui n'avaient pour lieu d'habitation qu'une maison, une maison qui partageait à beaucoup de personnes à la fois. Donc une petite cuisine là pour un lieutenant. Alors j'avais bien travaillé, j'avais satisfait au test. Et alors au moment de partir, vu les conditions, quand j'ai appris tout ce qu'on donnait aux militaires, même les conditions de vie, je m'étais découragé. Et pourtant, j'ai toujours eu ce sentiment-là de servir le tas dans l'armée, parce que moi-même, je suis un petit-fils d'un militaire, et actuellement, mon beau-père aussi, c'est un militaire, mais c'est ça qui décourage beaucoup plus, c'est qu'on donne aux militaires. Même, bien que l'initiative est bonne, même si on pouvait faire passer tous les jeunes de manière obligatoire, mais si on ne donne pas une sorte considérable, ils vont toujours se décourager, ils vont seulement passer par là et puis aller ailleurs, plutôt que de rester de servir le pays. C'était un peu ça mon apport par rapport à l'émission.
Merci Gabi de Lubumbashi. John, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour monsieur journaliste, c'est John Ntumba dans la ville de Kananga, John, dans la province du Kasaï central.
John, quelle est votre préoccupation par rapport au service militaire obligatoire pour les jeunes?
Voilà, monsieur Dadju Daniel Nkacha, moi je pense que vous savez, ce n'est pas une bonne initiative. Moi je condamne ça, ce n'est pas une bonne initiative pendant longtemps que nos actuels militaires et policiers mènent une vie médiocre. Imaginez, monsieur Dadju, jeudi, quel parent qui peut accepter d'envoyer son enfant dans les services militaire qui doit être formé, qui doit être renforcé. Je condamne ça, je dis que ce n'est pas du tout normal. Pourquoi le ministre ne peut pas organiser une formation extra? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de formations qui peuvent être organisées dans la République démocratique du Congo. Alors voilà mes préoccupations que je pose. Qui prendra en charge les nouveaux enrôlés dans l'armée? Imaginez, qui prendra en charge les nouveaux enrôlés dans l'armée? Il y a des deuxième question que je pose. Que feront le jeune après leur formation? Imaginez, je vais justement commenter cette question. Que feront le jeune après leur formation? Imaginez, s'il peut arriver à ce que les jeunes, quand ils parviennent à terminer leur formation, il n'y a pas l'encadrement, il n'y a pas d'encadrement de ces jeunes-là, certains seront des criminels dans la nature. Alors la troisième question que je pose, quelle idée qu'il y a pour seul le ministre de la Jeunesse à France à concevoir cette initiative. Ça, ce n'est pas du tout normal, bien qu'elle a salué, parce que le président de la République démocratique du Congo, Félix, lorsqu'il était venu chez Kananga, il a salué, il a dit que quand il prendra le pouvoir, il saura comment initier tout finaliste, chaque monsieur qui doit terminer à embrasser la formation militaire. Mais c'est un critiqué, comment je le critique? Qu'est-ce qui a initié le président de concevoir cette idée? Voilà, monsieur, je vous dis dans un cachement, mais mes trois petites préoccupations et j'espère avoir une réponse fiable.
Merci. John de Kananga. Monsieur Jean-Jacques Wondo, vous avez suivi les différentes préoccupations et points de vue des auditeurs. À vous la parole.
Oui, je pense que ce soit monsieur Lindondo ou monsieur Gabi ou encore monsieur John Toumba, ils viennent tous avec des préoccupations que des questions à poser. Leurs préoccupations tournent particulièrement autour de conditions social et de travail des militaires d'abord de l'armée, et partant de là, il se pose la question de la plus-value ou de la valeur ajoutée de ce service militaire obligatoire dès lors que les conditions initiales de fonctionnement et d'évolution des militaires ne permettent pas de créer une sorte de patriotisme ou d'incitation au patriotisme, d'autant plus que quand on passe par l'armée, généralement, on est considéré comme le laissé pour compte de la société. Ce qui est important de comprendre, vraiment, dans cette différenciation à faire entre une armée professionnelle et une armée de conscription où le service militaire est obligatoire, il faut retenir le fait que on s'engage dans l'armée, dans une armée professionnelle, non par la contrainte. Parce que si on s'engage par la contrainte, on risque de ne pas s'y investir à fond et de lever les pieds lorsqu'il faudra peut-être défendre la nation dans le cas d'un conflit armé. Parce que l'objectif, c'est que si jamais on fait face à un conflit armé de grande ampleur, qu'on puisse recourir à ces jeunes qui ont déjà eu une base de formation militaire pour pouvoir être mobilisés et aller défendre les pays. Ben, une des conséquences négatives, d'ailleurs constatées dans les armées de conscription, c'est le nombre très élevé de déserteurs pendant le conflit. Et l'exemple le plus criant, c'est l'exemple de la Russie post-soviétique, avec une armée de plus de 1 million de militaires. Mais chaque année, on avait environ 35 000 déserteurs pendant le combat ou pendant les opérations. Donc, cet aspect est très important parce que celui qui s'engage dans l'armée, il s'engage volontairement à exposer sa vie. C'est une vocation.
Oui, Jean-Jacques
Wondo.
Et quand
vous engagez,
Jean-Jacques Wondo, oui, pouvez-vous nous donner l'exemple de la Belgique? Ce projet a été expérimenté aussi en Belgique. Je ne sais pas si aujourd'hui ça continue. Les jeunes sont toujours formés, ont toujours la formation militaire. Et dites-nous qu'est-ce que cela a donné comme résultat pour le cas de la Belgique.
Le projet a été appliqué en Belgique, en France et dans plusieurs pays d'Europe occidentale. Mais tout ce projet a été mis de côté après la chute du mur de Berlin, parce que c'était vraiment dans une perspective d'une guerre massive du type Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, où tous les pays entrent en guerre. Et on s'est rendu compte que c'était un projet lourd d'ailleurs sur le plan administratif, sur le plan des infrastructures et sur le plan budgétaire. Au lieu d'investir des moyens pour former massivement des jeunes, qu'on va laisser après, c'est quand il faut rappeler, on ne sait pas si tous seront éligibles à pouvoir ou seront aptes à pouvoir défendre, on s'est concentré sur ce qu'on appelle l'armée professionnelle, où les gens viennent en connaissance de cause, viennent avec cette motivation pour se battre et répondre aux critères déterminé par les enjeux géostratégiques et militaires. C'est-à-dire que nous voulons telle armée, avec tel type de profil de gens qui ont tel diplôme, telle formation, telles aptitudes, pour répondre aux besoins de sécurité, aux besoins de la défense nationale du pays. Et depuis 1991 ou 1991, ce projet en Belgique a été abandonné, et quelques années plus tard en France, tous ces projets ont été abandonnés parce que ce sont des projets budgétivores et qui n'apportaient pas une valeur ajoutée substantielle en termes de patriotisme ou en termes de sécurité ou en termes de réinsertion socio-professionnelle. Et il reste peut-être des modules light où quelques jeunes sur base volontaire peuvent aller suivre une formation de 2 semaines juste pour apprendre certaines choses ou pour aller travailler dans le cadre humanitaire. Mais généraliser ça de façon obligatoire, ça n'apportera aucune valeur ajoutée et surtout ça portera plus de problèmes en termes de gestion. Et pour moi, je ne vois pas comment on peut concevoir ce projet sans, par exemple, mener une petite expérience pilote pour voir ce que cela peut donner et peut-être en tirer des questions et des conséquences ou des résultats positifs ou négatifs, voire des pistes d'amélioration. Mais actuellement, en Europe occidentale, ce projet est pratiquement abandonné parce que c'est pas efficient ni efficace.
Oui, Jean-Jacques Rondeau, pour vous, il faut plutôt renforcer le service national où les jeunes vont apprendre des valeurs, le patriotisme et puis apprendre aussi des métiers.
Pour moi, je pense qu'il faut d'abord revoir le programme scolaire, éducatif scolaire de base, classique et professionnel. C'est là qu'on peut inculquer à la jeunesse les notions de patriotisme et citoyenneté et les sens de l'État. Et quand on parle aujourd'hui de l'État de droit, mais c'est au niveau de cette base-là, scolaire, qu'on peut vraiment inculquer la notion d'État. Une fois que ces éléments, ces jeunes comprennent et intègrent ces notions d'État, demain, ils seront les défenseurs de l'État de droit. Vous comprenez? Et vu que le Congo se trouve dans une situation particulière où on a, en face, qui fait face à une proportion élevée de jeunes qui ne sont pas dans la voie scolaire classique, on peut envisager un projet du type. Je n'ai pas dit qu'il faut répondre texto le projet du service national, mais on peut s'inspirer de cela, l'adapter à la condition actuelle, voir ce qu'on pourrait faire de cette jeunesse qui est laissée dans les jeunes Kuluna et d'autres jeunes qui sont vraiment abandonnés dans la rue, qu'on peut récupérer. C'est le rôle aussi de l'État, la prise en charge de la jeunesse, qui est un droit d'ailleurs pour ces jeunes-là, d'être réinjectés dans un circuit de formation en vue de permettre leur réinsertion sociale. Et ce projet aussi peut se faire parallèlement avec d'autres projets de désarmement, démobilisation et réinsertion, où on a beaucoup de jeunes qui ont été en contact avec le groupe armé, qu'on peut aussi orienter. Et c'est là que doivent se focaliser pour moi les priorités. Ici, ce projet, personnellement, je ne vois pas comment on peut le mettre en place parce que pour moi, c'est vraiment un projet utopique qui répond plutôt à un discours pour faire plaisir à l'opinion publique.
Bien, Jean-Jacques Ouondo, expert et analyste des questions politiques et sécuritaires du Congo et de l'Afrique médiane, diplômé de l'École royale militaire belge et breveté des hautes études de sécurité et de défense. Merci et à la prochaine.
Merci à vous aussi.
Découvrez les modèles et les talents congolais dans le magazine Étoile. Des hommes et des femmes au parcours exceptionnel. Trouvez une source d'inspiration à travers ces personnes connues et ces citoyens lambda sur Radio Capi. Étoile, de la découverte à l'inspiration. Radio Capi vous propose des hommes et des femmes d'exception. Suivez-les dans le magazine Étoile tout le samedi à 14h05 et 19h05, puis en rediffusion le lundi à 15h30, heure de Kinshasa.
Bien, quelle est l'importance du service militaire des jeunes après les études secondaires? Eh bien, le ministre de la Jeunesse et Nouvelle Citoyenneté compte instituer une formation militaire obligatoire des jeunes diplômés d'État afin de les initier à la discipline, à l'éducation civique et au respect des biens de l'État. L'annonce a été faite dernièrement au Musée National à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse célébrée les 12 août de chaque année. La dite formation va durer 6 mois avant de se lancer dans les études supérieures. Quelle est l'importance du service militaire obligatoire pour les jeunes diplômés? On en parle à présent avec le professeur Jacques Joly. Il est député national, il enseigne le droit public, il était vice-président de la commission défense et sécurité du Sénat. Et il a reçu aussi une formation militaire en 1982, il va nous en parler d'ailleurs lui-même. Professeur Jacques Joly, bonjour.
Bonjour.
Alors, la première question est de savoir, parlant de votre expérience, vous avez suivi une formation militaire, c'était en 1982 lorsque le président Mobutu avait fermé les universités et beaucoup d'étudiants ont été en relais des forces. Parlez-nous de votre expérience.
Mais ça a été une expérience enrichissante. Donc, suite aux troubles qu'il y avait à l'université, moi et un certain nombre de collègues, ainsi que d'autres étudiants des institutions supérieures telles que l'IPN et l'ISTA, nous nous sommes retrouvés à Koutakoli pour une formation militaire de base qui a duré 9 mois, et après nous sommes rentrés à l'université, terminé les études, après le pardon entre guillemets du maréchal, et puis après ben, j'ai intégré l'armée de manière volontaire au sein de la magistrature militaire, et j'ai fait là-bas plus ou moins 10 ans de service militaire avant que je demande ma démobilisation officiellement par le service de Conader. Et pour le moment, je suis professeur d'université, je fais tout ce que vous avez dit à côté.
Alors, à quoi cette formation-là vous a fermé, cette formation-là vous a servi? Est-ce que vous avez appris les notions de patriotisme et bien d'autres choses durant cette formation à Koutakoli?
Bon, ça c'est une évidence, c'est que au sein de l'armée, on nous apprend à vous engager jusqu'au sacrifice suprême, c'est-à-dire que vous devez être prêt à mourir pour la nation, à verser votre sang pour la nation. Et pour ça, il y a plusieurs modules de formation, le module armée d'abord, puis module discipline, module armée, c'est-à-dire la formation militaire consacrée à l'art de la guerre, et puis à la discipline qui est le fondement de cette action. Et à l'époque, comme il y avait la direction d'éducation civique et politique, nous avons été accompagnés par l'éducateur politique, un éducateur politique, je crois qu'il est mort, Major Mbélé, qui nous donnait le cours d'éducation politique, basé bien sûr sur les théories du mobutisme. Et après, il y avait d'autres activités sportives pour, n'est-ce pas, le métier physique. Voilà, ça a été une belle expérience. Pourquoi je n'ai pas hésité à réintégrer l'armée de manière volontaire.
Bien. Alors aujourd'hui, le ministre de la Jeunesse et Nouvelle Citoyenneté veut instaurer une formation militaire obligatoire des 6 mois pour tous les jeunes diplômés avant de passer aux études supérieures. Pensez-vous qu'il est aujourd'hui important d'organiser cette formation militaire?
Bon, j'ai suivi dans les médias le propos du ministre Philippe Cambalé, qui est ministre de la Jeunesse et de l'Éducation à la Citoyenneté, qui propose, n'est-ce pas, la formation militaire de 6 mois. J'ai aussi suivi le dépôt par mon jeune collègue, l'honorable Daniel Mbaou, le dépôt d'une proposition de loi liée, n'est-ce pas, à cette formation militaire de base. Qu'est-ce qu'on peut dire? D'abord, sur le plan de droit, il était fait que l'article 63 de notre Constitution prévoit que tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre son pays et son intégrité du territoire face à une menace ou une agression extérieure. L'alinéa 2 de cette disposition constitutionnelle précise qu'un service militaire obligatoire peut être instauré dans les conditions fixées par la loi. Donc c'est une possibilité, peut, ce n'est pas doit. Alors, si le constituant a utilisé les termes cette opportunité, c'est qu'il y a un certain nombre de conditions. J'ai essayé de parcourir la loi de l'honorable Mbaou, qui est une très belle loi, écrite dans des termes appropriés, d'une très belle esthétique, tout comme je suis aussi les propos du ministre, mais la question qui se pose, c'est au-delà de la constitutionnalité de la démarche, c'est l'opportunité et la faisabilité de l'approche. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, je viens suivre avec beaucoup d'intérêt mon frère Wondo, Jean-Jacques, qui vient d'intervenir.
Oui.
Vous apprendrez que la conscription a totalement presque disparu dans le vieux monde. En Europe, il y a peut-être 9 pays qui continuent à recourir à ces services. Aux États-Unis, ça n'existe plus. En Israël, on connaît pourquoi ça s'est fait. On ne décide pas comme ça d'instaurer les services militaires obligatoires. Il faut évaluer les contextes. C'est vrai que notre pays est un pays qui est tout le temps en menace, mais d'abord l'outil principal, parce que la conscription, ce sont donc des supplétifs. Quel est l'état de l'outil principal de la défense? Nous avons plus ou moins 150 000 militaires et plus ou moins 150 000 policiers. Ça fait 300 000 hommes. Dans quel état ils sont en termes de formation, en termes de qualité de recrutement, en termes de conditions matérielles de vie, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont casernés, est-ce qu'ils sont motivés, et tout cela pose problème de l'efficacité de l'outil. Nous avons des difficultés de promulguer la loi de programmation militaire parce que il faut mobiliser pas moins de 8 milliards pour mettre la réforme de l'armée en exergue. Eh bien, nous les avons pas, ce qui fait que la loi de programmation militaire n'existe pas et la loi de programmation de la police est pratiquement inappliquée. Alors, vous allez prendre tous les étudiants, tous les élèves qui terminent la sixième année. Je crois que par année, on a plus ou moins 1 million de diplômés d'État. Où est-ce que vous allez les caser? Comment vous allez les nourrir? Comment vous allez les former? Par qui? Et pour quel objectif? J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Voilà, c'est pour la discipline et pour l'éducation civique. Très bien, lorsqu'on voit la fragilité du pays, il faut d'abord travailler l'outil principal. Le budget de la défense est très dérisoire. Aujourd'hui, ça ne dépasse pas plus de 300 millions de dollars. Or, pour prendre en charge 1 million de personnes pendant 6 mois, je ne sais pas les amis qui proposent ces beaux tableaux ont tout calculé. Vous allez les loger où? Ben, vous allez me dire qu'on va faire des camps dans la forêt. Mais vous allez les nourrir comment? Est-ce qu'ils vont planter le même jour et récolter le même jour? Donc, il se pose une question de faisabilité. Pourquoi tous les pays qui ont appliqué dans leur histoire la conscription, ont dû battre en retraite pour des armées beaucoup plus professionnalisées. Mais l'impératif de tenir les citoyens en alerte existe. Aux États-Unis, il y a le Selective Service qui forme des réservistes qu'on peut, n'est-ce pas, convoquer en temps opportun, ou tout comme des pays qui utilisent encore ces forces, ces genres de conscription, comme les petits pays tels que la Suisse, la Grèce, Norvège, Finlande, sont des pays qui n'ont pas de grosses unités d'armée. Or, ici, nous avons d'abord à nous occuper de la force principale, à les équiper. Vous savez qu'aujourd'hui, notre force aérienne est pratiquement au degré zéro. La force navale, beaucoup de difficultés. La force terrestre, il faut des moyens. Nous n'avons pas... Je suis passé hier devant le camp CETA. J'ai demandé qui restait là-bas. On me dit que c'est tout le monde. Ce qui fait que nous avons plus de unités paracommando qu'on peut projeter pour aller régler une situation. Donc, notre armée est dans un état très difficile. Alors, il faut aller rendre 1 million d'étudiants pour les former.
Oui.
Ben, ce n'est pas mal. Il faut d'abord commencer par créer les conditions des institutions supérieures qui vont le recevoir avant de songer à cela. Donc, comme dit notre constitution d'ailleurs, chaque fois qu'on fait une proposition de loi, il faut faire une supputation des propositions en matière de budget. Est-ce que notre budget a la capacité, la soutenabilité d'un tel projet? Mais je suis d'accord avec eux qu'il faut premièrement former en termes civiques beaucoup de jeunes. Mais est-ce que les jeunes sont devenus civiques pas parce que ils sont abandonnés? Je crois que le ministre doit avoir une vraie politique nationale en matière d'emploi de jeunes. Moi, je suis professeur, je forme des étudiants qui terminent et ils n'ont pas d'emploi. Est-ce que c'est les envoyés dans l'armée qui vont devenir beaucoup plus citoyens? Donc, je crois qu'il y a des problèmes. Le problème de l'employabilité de jeunes.
Oui. Professeur Jacques Jolie, on va accueillir un auditeur et puis je reviens à vous tout à l'heure. Il s'agit de Charles de Kananga. Bonjour.
Bonjour, monsieur. Je dis bonjour aussi à votre invité.
Nous parlons du service militaire des jeunes, le service militaire obligatoire après le secondaire, l'école secondaire. Quelle est votre préoccupation?
Je dis, je ne suis pas tout à fait de même avis avec les initiateurs de ce projet de loi. Notre fille est classée 6e en Afrique.
Oui, Charles, la communication, on vous entend pas très bien. Je vais vous demander de bouger, de vous déplacer un tout petit peu. Peut-être que ça peut améliorer les choses.
Vous m'entendez maintenant?
D'accord, allez-y. C'est bon.
J'étais en train de dire, je ne suis pas tout à fait de même avis avec les initiateurs de ce projet de loi. Notre pays, notre armée est classée 9e en Afrique, ce qui veut dire que nous avons une bonne armée, mais délaissée à sa triste sort par l'État congolais. Nous utilisons nos yeux et nos oreilles pour voir et entendre comment nos militaires sont maltraités avec un solde misérable et qui les pousse à commettre les irréparables. L'État devrait majorer les salaires de nos militaires, améliorer son plein de vie et renforcer la formation de nos militaires pour que ce secteur puisse impressionner les jeunes. Nous verrons ça comme un calvaire que l'État congolais veut nous infliger de nouveau. L'argent qu'on peut utiliser pour former tous les jeunes, il peut aider. Cet argent peut aider pour former tous les jeunes. Il peut aider pour renforcer et réformer l'armée qui est formée tous les jeunes.
Voilà, améliorer les conditions de vie des militaires avant de penser à la formation des jeunes. Merci Charles Dekananga. Jean-Marie, vous êtes en ligne depuis Kasumbalesa. Bonjour.
Monsieur le journaliste, tous les auditeurs de Radio Okapi.
Quelle est votre préoccupation?
Ah oui, selon le sujet, pour moi, c'est bien de former les jeunes aux FRDC parce que ça va favoriser quand même de bannir la peur dans la jeunesse congolaise. Parce que si vous voyez très bien, il y a d'autres secteurs que les jeunes ne sont pas impliqués parce qu'ils ont de la peur. Alors, de cette façon-là, il y aura quand même moyen de bannir la peur dans la jeunesse. Mais ce qui est nécessaire, c'est après la formation de ces jeunes-là, qu'est-ce que l'État va prévoir? Parce que c'est pour les empêcher aux manipulations des politiciens congolais. Parce qu'il faut que l'État puisse mettre en place quelques mécanismes, quelques moyens pour de favoriser la manipulation des uns et des autres après la formation de ces jeunes-là.
D'accord. Merci Jean-Marie de Kasumbalesa. Professeur Jacques Joly.
Oui, ben je crois que quand nous suivons les uns et les autres, nous voyons qu'il y a un impératif, celui de la formation civique de la jeunesse, celui de l'initiation du jeune. Voilà pourquoi des pays, même ceux qui ont abandonné le service militaire obligatoire, tels que l'Allemagne, le Royaume-Uni ou même la France, parmi les programmes, dans les programmes du président Macron, par exemple en France, il a parlé à un certain moment du retour du service militaire obligatoire, mais compte tenu des contraintes, pour 2000 cadres qu'ils ont formés, dans les cadres ici, il ne fallait pas moins de 1,5 milliard d'euros. Donc, ils ont orienté la démarche vers le service national universel, qui est en fait une initiation à la défense, à l'idée de la défense du territoire, à l'initiation du civisme. Je crois que le collègue
a parlé
de l'éducation civique.
Voilà.
Être beaucoup plus formé.
Professeur, le service national,
l'appel d'organiser une semaine à l'université. Nous, on avait organisé ça à l'époque quand nous étions à l'université. Pendant la période de Bleuzaï, nous avions eu une semaine pour initier le nouveau aux questions qu'ils vont rencontrer à l'université et les initier aussi aux questions d'éducation civique. Je crois qu'on peut trouver la première semaine à l'université où on fait le blésail de manière plus ou moins confuse, en conversation avec le ministère de la Défense et d'autres ministères, pour préparer avec le ministère de l'enseignement supérieur, leur apprendre comment étudier, mais aussi leur donner des rudiments pendant une semaine ou deux. Mais créer un service militaire obligatoire de 6 mois, au-delà de la beauté de l'idée, il y a un problème de faisabilité.
Nous savons que Mlle Laurent Désiré Kabila avait créé à l'époque le service national avec l'idée de créer des forces d'autodéfense populaire, mais le projet n'a pas fait long feu. Vous pensez que on peut réactiver ce projet-là?
Bon, ces approches du type marxiste ou parti populaire, on fait pas seulement ici. Le ministre Willy Kamal lui-même a parlé des brigades agricoles. Mais écoutez, à Kanyemakafé, on a produit plus ou moins 5 000 ou combien de tonnes. Et on va les évacuer comment? Non, je crois que dans la première formule de la réforme de l'armée avec le ministre Tshikez, l'armée avait la mission de défendre et de produire. Mais après, on a vu qu'on ne pouvait pas s'occuper l'armée là pour défendre. La production, c'est une affaire de l'économie. Donc, on a enlevé cette mission. Donc, il faut former le jeune. Surtout le jeune désiré. Si vous allez en Europe ou ailleurs, il n'y a pas simplement la formation universitaire qui doit prendre le jeune. C'est l'apprentissage, la professionnalisation. C'est ce que fait l'UNPP, mais qu'on doit étendre ça de manière beaucoup plus ouverte. Combien de maçons on forme aujourd'hui? Il y a besoin de maçons. Combien de carreleurs on doit former? Combien d'électriciens? Il faut aider le jeune à prendre un métier. Nous avons un vrai problème, par exemple, dans la ville de Kinshasa, où dans tous les coins d'avenue, il y a des jeunes gens qui sont là, dans l'oisivité, en train d'appeler tout le monde président, président, pour que vous leur donnez l'argent. Oui. Mais cette histoire de vagabondage peut se transformer en une criminalité, parce que le vagabondage, c'est un état de pré-criminalité. Il faut résoudre cette question. Nous avons une bombe humaine ici chez nous. Nous sommes une population de 80 millions d'habitants, mais plus de 75% de la population, ces jeunes ont moins de 25 ans. Donc si nous ne prenons pas en charge la question de leur insertion, de leur formation, de l'inaccessibilité à l'université, avec une vraie politique de jeunesse, de l'emploi, de formation, nous allons créer des rébellions comme il y en a partout maintenant à l'Est. Donc il faut créer cette affaire-là, il faut prendre en charge la formation de la jeunesse, leur insertion dans la vie professionnelle. Bon, la question de l'éducation civique, c'est une question transversale. L'esprit de défense, il faut l'inculquer à tous les niveaux, notamment au niveau déjà de l'école primaire. Si vous prenez notre constitution à l'article 45, on parle de ces volets-là de l'éducation, le pouvoir public, je lis, ont le devoir d'assurer la diffusion et l'enseignement de la constitution et de la déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, on parle même de l'obligation d'intégrer les cours de droit de la personne. Tout cela, il faut, comme un peu cela dit, remanier le programme de formation, créer des instants de diffusion de l'esprit de défense, de la lutte contre la corruption qui est l'état d'esprit qui détruit ces pays. Il faut trouver des espaces pour dire cela, mais je ne crois pas qu'il faille aller, je crois qu'il faut un service national citoyen qui peut former, mais créer un service militaire obligatoire. Ce sont des belles idées, mais qui ont fait leur temps.
Bien. Professeur Jacques Joly, député national et enseignant de droit public, merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Merci. C'est moi qui vous remercie.
Eh bien, mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève le magazine Okapi, service consacré aujourd'hui à l'importance du service militaire obligatoire des jeunes après les études secondaires. Sylvain Baouguéré était à la mise en onde, Tati Mapoukou a assuré la réalisation, Marcel Ngombo à la coordination, au micro, Jody Daniel Kachama sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine.